Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde. Écoute les bruits du monde. Les bruits du monde par principe actif. Par principe actif.
Il demande si vous écoutez de la musique arabe.
Ouais.
Qu'est-ce que vous écoutez?
J'ai commencé à tourner dès notre arrivée. Et on n'avait pas fait deux pas dans la rue qu'on s'est fait arrêter. Donc il a fallu aller passer un entretien au ministère de l'information, une espèce de grand bâtiment soviétique, comme il y en a plein là-bas, où on vous fait poireauter dans des pièces vides, personne parle anglais. Et heureusement, grâce à l'attaché culturel, on avait une traductrice française, et elle a tout pris sur elle, elle nous a arrangé. Elle a essayé d'embobiner un peu les types en leur disant, voilà, ils viennent montrer comme la Syrie est belle et grande. Donc on avait une lettre du ministère de l'information, sur laquelle elle était marquée responsable. Ce qui voulait dire que... Bah, ça voulait dire qu'il fallait faire des choix, c'est-à-dire soit aller vraiment essayer de faire parler les gens, mais peut-être la mettre en danger. Donc c'était un petit peu compliqué à faire, parce que le ministère d'information voulait qu'on ait absolument un guide, et en gros on aurait pu filmer la mosquée des Omeyyades, merci, au revoir. Je m'appelle France Wimberg, j'ai 27 ans, et je travaille pour l'émission Trax sur Arte depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc ce qui était difficile, c'est qu'on rencontre des gens, et des artistes ou pas, des gens qui ont envie de faire changer les choses et qui disent « mais ici, c'est pas si catastrophique que ça ». Et puis on écoute leurs histoires, on a envie de leur dire « mais attends, mais de quoi tu parles, ça va pas du tout ». En plus, ils étaient tellement accueillants, on passait tellement de temps avec eux, que la difficulté pour moi, c'était d'arriver à me taire et à rien leur dire, parce que après, moi, je fais ça, et après, j'entre chez moi et tout va bien. Donc, je trouvais que c'est le plus difficile pour moi, ça a été ça. C'était pas la fatigue. Bon, on était crevés parce qu'on n'a pas arrêté, et qu'effectivement, on a tourné du début à la fin parce qu'on n'a pas eu le temps de faire de repérage. C'était pas possible. Et j'avais donc quelques idées. Arrivées là-bas, elles se sont déconstruites. Mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui s'est construit par-dessus. Donc tout était... au montage, j'avais vachement de mal à monter les interviews parce que les gens se contredisaient beaucoup et j'arrivais pas à savoir. Je me disais, la vérité doit être un peu entre les deux. Mais... Donc c'était un peu délicat. Donc on a simplifié. C'est pour ça que le sujet est aussi court. Et puis parce que juridiquement, c'est compliqué aussi. Parce que on ne cache pas le nombre de propos antisémites qu'on a pu entendre au kilomètre. C'est quand même assez... Voilà, c'est délicat. Puis c'est pas le sujet. Mais en même temps, c'est une toile de fond qui détermine tout. Donc... En aussi peu de temps, c'est très compliqué, je trouve, de parler de la Syrie. Donc ils étaient très contents, forcément. Ils captent Arte via le Liban, là-bas. Donc ils sont très très impatients, ouais, c'était ravi. Le problème, c'est de trouver des gens qui veulent bien parler de la situation en Syrie devant une caméra. Donc on a beaucoup d'interviews qui sont cachées. Des gens qu'on a dû maquiller ou qu'on a dû mettre de dos. Ou alors ceux qui acceptent de parler devant la caméra disent de toute façon pas grand-chose, si ce n'est qu'ils aiment beaucoup leur président et que tout ce qu'il fait, c'est vachement bien. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on voulait avoir. Et par contre, là, il y a eu un cas... on a rencontré deux personnes, deux Syriens d'origine iranienne, qui, eux, ont voulu absolument parler, ne pas être maquillés, qui voulaient prendre le risque. Et c'est nous qui l'avons pas pris. C'est-à-dire qu'on les a pas mis parce que juste après l'interview, tous leurs copains sont venus me voir. Même l'attaché culturel français m'a dit qu'ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, mais ça passe. Ils sont emprisonnés le lendemain, donc on l'a pas fait.
بس وقت يقدم نحن مخفف شوي
Donc en fait, oui, c'est sûr qu'il me reste plus de rushs intéressantes finalement que ce qu'on peut voir. Mais après, voilà, on n'est pas non plus une émission politique. Donc c'est ça qui est délicat, c'est comment évoquer un contexte qui est forcément ultra politisé. D'Anthrax, c'était pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Même sur la présence de Noir Désir, il y a plein de gens qui disaient oui, on est très content qu'ils viennent supporter, enfin qu'ils viennent parler des problèmes de l'intifada. Enfin, ils venaient pas pour ça, mais ils en ont parlé, de sentir qu'ils sont concernés par la situation. Mais de toute façon, on s'en fout. C'est-à-dire que tous les dirigeants arabes s'en foutent. Donc c'est pas les Européens qui vont changer grand-chose. On trouve ça très gentil, merci. Mais le vrai problème, il est que même notre gouvernement s'en fiche. Bon bah voilà, une phrase comme ça. Pour moi, c'est intéressant. C'est lié à Noir Désir, ça, mais c'est juste pas diffusable. C'est pas possible. C'est pas possible.
Arte Radio.
Suria hurria, 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 Suria hurria. Suria hurria, 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 Suria hurria.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Les Bruits du Monde, l'émission qui prête une oreille attentive au brouhaha, au murmure ou à la poésie du monde. Ce soir, nous décollons pour la Syrie, pays en guerre depuis 5 ans et le début de sa révolution manquée ou inachevée et qui n'en finit plus de souffrir. Pour m'accompagner ce soir, Lord Lorenzo, bonsoir à vous.
Bonsoir Lord.
Avant de vous détailler le contenu de notre programme du jour, je voulais vous demander votre indulgence, amis auditeurs, notamment sur la quant à la prononciation de certains mots ou noms propres. En effet, nous ne maîtrisons pas parfaitement la langue arabe encore, à moins que vous ayez fait un stage express, Lord Lorenzo.
Je ne suis pas expert non plus.
On a écouté un extrait d'un reportage tourné en Syrie par l'équipe de l'émission Trax de la chaîne Arte. J'imagine que vous l'aviez reconnu puisqu'elle, la journaliste l'évoque dans ce qu'on a écouté. Et puis juste après, on a écouté un truc qui me faisait un petit peu marrer, qu'on retrouve également sur Arte. Ça s'appelle Mosson. Celui qu'on vient d'écouter s'appelait Souria Ouria, Liberté, Syrie Liberté. Et le concept, en fait, c'est un mot qui est enregistré en une seule fois et l'échantillon est obtenu, sert de matière à l'écriture du Mosson. Donc voilà, le mot est répété, etc. Voilà, j'ai parlé des extraits du jour. Voilà, je me perds un petit peu dans mon programme, mais ça va revenir très vite. Les bruits du monde ce soir seront constitués bien évidemment de musique, mais aussi d'un long entretien avec Raled Al-Jaramadi, oudiste syrien, partenaire de Serge Tesseguet sur le projet Interzone, et que nous avons joint par téléphone il y a lundi, voilà, pour être tout à fait précis. Et puis on agrémentera le tout avec quelques extraits de films et des petites lectures. Avant d'écouter un premier morceau de musique, nous avons évidemment une pensée pour les absents, à savoir Lord Professeur et Lord Docteur, qu'on salue, bien évidemment. L'un d'entre eux est devenu papa, donc félicitations, on le fait en direct et à l'antenne. Ça vous fait sourire. Qu'est-ce qu'on va écouter, Farid El Atrash, un de vos choix.
Ouais, un peu emblématique de... Bah déjà, c'est un auteur que j'aime bien, je suis pas du tout spécialiste de la musique syrienne. D'ailleurs, quand tu nous as proposé ce projet Syrie, c'est une découverte pour moi. Je vais encore découvrir pas mal de choses en cours d'émission. Lui était syro-égyptien, donc il avait déjà... Enfin, il était né en Syrie, mais un peu de double nationalité. Il fait partie des grands noms de la musique arabe, auprès de Oum Kalthoum ou Férouz. Et il a un destin assez tragique, dont on parlera tout à l'heure. On écoute un premier morceau. Vous êtes bien dans les bruits du monde. On est ensemble jusqu'à 23h sur l'antenne de Principe Actif. Merci de votre écoute.
يا هل ترى صالي والتقي لحبيب مخلص يريح بالي يكون وصاله قريب امتى الزمن يصفالي والتقي لحبيب مخلص يريح بالي يكون وصاله قريب ويملى قلبي الخالي اكيد معه عزالي ويملى قلبي الخالي اكيد معه عزالي والدنيا تضحك لينا زينة والله زينة زينة والله زينة
Vous nous rappelez ce qu'on vient d'écouter
Farid El Atrach, un des grands noms de la musique arabe avec une voix assez triste et grave en même temps. Bah, c'est très emmené, hein. Ce sera pas mal de rythmes soutenus ce soir.
Très bien, merci. sans transition, on va passer un petit peu au cœur de cette émission puisque nous avions la chance d'avoir eu Khaled El Jaramani, donc on rappelle qu'il est joueur de oud d'origine syrienne installé en France depuis un petit moment et il a accepté de répondre à mes questions lundi dernier au téléphone. Donc on va retrouver cet échange maintenant. Alors je suis avec Khaled El Jaramani, joueur de oud d'origine syrienne installé en France depuis un petit moment et nous consacrons évidemment cette émission à la musique syrienne ou aux musiques syriennes. On va tâcher d'en savoir un peu plus avec vous, Khaled El Jaramani. Est-ce qu'on peut d'abord, pour apprendre à vous connaître un petit peu plus, revenir, si vous le voulez bien, sur votre parcours d'humain avant tout, et puis dans un deuxième temps, sur votre parcours de musicien. C'est une question un peu générale, mais on prendra la réponse que vous voulez bien nous donner.
D'accord. D'abord, bonjour. Moi, je parle depuis 3 ans le français, donc si je fais des erreurs, désolé d'abord. Et moi, je suis né au sud de Syrie au 1972. Sud de Syrie, c'est une ville qui s'appelle Sweda, 100 km loin de Damas. Dans cette ville, l'instrument oud est très très connu. Peut-être vous pouvez trouver un oud dans chaque maison, presque. Peut-être à cause de ça ou grâce à ça, je suis devenu un oudiste. Mon père était un musicien aussi, était un prof de musique aussi. Donc j'étais de l'enfance attaché à la musique. À l'âge de 22 ans, j'ai commencé à étudier la musique officiellement. C'est-à-dire avant, j'étais co-amateur qui joue tout seul, qui apprend des choses tout seul. Mon père, il m'a aidé dès le début, mais pas vraiment pour être à la manière un peu professionnelle comme aujourd'hui dans le conservatoire et tout ça. J'ai commencé le conservatoire à l'âge de 20, 21 ans, comme ça. Après, dès le début, moi, j'ai essayé de faire autre chose qui toujours on fait dans la musique traditionnelle. Et heureusement, j'ai rencontré Serge Tissouguet en 2002. On a commencé à composer des pièces musicales tous les deux. En 2004, quand on a fait le premier album Interzone. 2005, deuxième album. Donc, ce voyage, il a resté, on a continué jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai fait aussi pas mal des projets comme mon disque solo que j'ai fait avec l'Institut du Monde Arabe. J'ai fait un projet avec Oud, percussion contrebasse, et il s'appelle Exil, avec le contrebassiste Olivier Mauvais et mon frère qui joue le percussion. J'ai fait un projet Oud clarinette percussion avec Raphaël Vouillard, le clarinettiste ici à Lyon. Donc j'ai fait pas mal de projets depuis. Je ne sais pas si ça suffit comme ça, mais c'est un passage très vite par rapport à la musique, mon histoire avec la musique.
Et en même temps, on comprend bien qu'elle elle est longue, cette histoire. Il s'est passé pas mal de choses. Je veux bien revenir sur, si j'ai bien compris, la première personne qui vous a donné le goût de la musique, et notamment du oud, c'est votre père. Et ensuite, vous avez fait le conservatoire. Vous l'avez fait où, votre conservatoire?
C'était à Damas. C'est le conservatoire supérieur de la musique à Damas. Cet conservatoire est fondu à l'année 1994, c'est-à-dire il est moderne, il n'est pas très ancien. Mm-hmm. Moi, je commençais à cette année aussi la musique dans ce conservatoire. Avant, j'ai appris tout seul. Et le conservatoire à Damas, c'est un conservatoire où on peut étudier la musique traditionnelle orientale et la musique occidentale. Par exemple, moi, j'ai étudié des théories de musique occidentale, l'harmonie, contrepoint, tout ça, avec des profs russes à l'époque qui sont venus de Russie. Et c'est ça, et j'ai étudié le oud aussi avec.
Qu'est-ce qui caractérise là où les musiques syriennes? Est-ce qu'il y a des éléments vraiment importants qu'on retrouve exclusivement dans la musique syrienne, ou c'est quelque chose de commun plus largement aux pays aux alentours? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses vraiment essentielles dans la musique syrienne que vous avez apprises soit seul, soit avec le conservatoire après, qu'il nous faut absolument mettre en avant dans cette discussion?
Moi, je crois vraiment que la musique syrienne, je ne sais pas si on peut dire musique syrienne, mais c'est un parti de la musique orientale en général, orientale arabe, on peut dire. La musique en Syrie, on a plusieurs, comme vous savez, il y a plusieurs, en Syrie, il y a plusieurs de couleurs culturelles. On a des Arabes, des Kurdes, des Arméniennes, de plusieurs religions. On a des chants soufis, on a des chants syriaques qui restent de l'époque il y a 2000 ans presque. Donc on a beaucoup de couleurs, mais tout ça musicalement c'est un parti de la musique orientale en général. C'est-à-dire on joue la même mode, la même rythme comme en Turquie par exemple, ou comme en Grèce, ou comme en Égypte. La musique syrienne, généralement, c'est une partie de la musique orientale. Après, il y a les chansons, les bien sûr, comme en Europe, il y a des différences de tradition, de folk, dans un endroit à un autre, dans une région à un autre. Mais en général, c'est une musique orientale comme toute la musique qui existe autour de Méditerranée, quoi. Nord d'Afrique, jusqu'au Égypte, après le terre de Cham et tout ça, en Irak, après en Turquie. C'est la même musique.
Et alors vous disiez qu'il y avait des cultures musicales, des peut-être qu'on peut dire styles musicaux, vous m'arrêtez quand je dis une bêtise, en tout cas des chants, des musiques traditionnelles qui se transmettent depuis des siècles et des siècles. Comment elle se fait cette transmission entre les générations de musiciens, de chanteurs, de danseurs? Comment ça se partage et ça se transmet?
En fait, ça transmet oralement, parce qu'à l'époque, on n'a pas d'écriture. Oui, il reste quelques genres d'écriture de musique, mais aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à traduire. Mais la plupart des traditions musicales, elles transmettent par les oreilles oralement.
Et il n'y a pas forcément besoin d'écriture, du coup, pour qu'elle se transmette cette culture musicale.
Non, pas vraiment, mais c'est mieux si on peut archiver, quoi. Mmh. Parce que petit à petit, on commençait à perdre cet héritage très important, quoi.
Vous en parliez un petit peu tout à l'heure de votre rencontre, notamment avec Serge Tesseguet. Avant de revenir, donc on rappelle, ancien guitariste de Noir Désir, avec qui vous avez notamment fait le projet Interzone, trois albums, Interzone, Deuxième Jour et Waiting for Spring. Pardon pour l'accent anglais qui n'est pas parfait. Avant de parler de votre histoire avec Serge Tesseguet, comment s'est passée votre rencontre avec la France et votre histoire avec la France?
C'est exactement ça, mon histoire avec la France s'est passée par Serge. Parce que j'ai fini mes études en 1999 à Damas. Et j'ai fait à la fin 2000-2001, je ne me rappelle plus exactement, 2001 je me rappelle. J'ai fait un concert au Centre culturel français de Damas. Et là-bas j'ai rencontré un écrivain qui connaît très bien Serge. Et c'est lui qui est venu ici parler de moi à Serge. Après, Serge est venu à Damas. Donc, on s'est rencontrés à Damas. Mais le plus important à dire, que tout ça passait par le Centre culturel français de Damas. Donc, elle était vraiment active. Elle était, la fenêtre pour nous, pour se contacter avec France et avec Europe en général. Grâce à le Centre culturel français à Damas, j'ai rencontré Serge et j'ai commencé mon histoire musicale avec lui. Et en France, après, maintenant je suis un musicien syrien qui vit ici en France comme intermittent de spectacle, c'est-à-dire je travaille ici, je gagne ma vie ici. Donc la France aussi, elle a eu un côté pour moi très positif. Elle m'a permis de continuer à travailler après que j'ai la guerre en Syrie. Donc j'étais obligé de quitter mon pays et venir en France. Avec ce système d'intermittent de spectacle, j'ai réussi à continuer à vivre sans besoin d'aide, quoi. Donc, il y a ce côté vraiment positif avec la relation avec la pays de France.
Les bruits du monde par principe actif.
I
Interzone, projet croisé entre Khaled Al-Jarahmani et Serge Tessoghi. On le remercie en tout cas, Khaled Al-Jarahmani, pour cette interview très documentée sur ce carrefour culturel en plein cœur du monde arabe qu'est la Syrie, avec des traditions musicales extrêmement lointaines, perdues dans le fond des temps. Et ce projet, effectivement, qui aurait pu prendre des allures si ça n'avait pas été Serge Tessoghi et Khaled Al-Jarahmani, de quelque chose d'un peu, c'est-à-dire un rock sauce orientale, c'est beaucoup plus que ça, ce projet à quatre mains. On l'a entendu là, c'est quasiment instrumental, hein. Khaled Al-Jarahmani prend un peu le chant, et les deux hommes savent tellement tirer parti de leurs instruments, et ils vivent avec une telle subtilité, pour les avoir vus aussi à l'abordage il y a une dizaine d'années à la sortie de ce premier album, qu'on est vraiment dans un mariage très très harmonieux entre l'Occident et l'Orient. Et je trouve que là aussi aujourd'hui, enfin encore en tout cas, c'était il y a 10 ans, dans les années 2000, les mariages audacieux font progresser la musique et les hommes.
C'est typiquement le genre de projet auquel nous sommes sensibles, notamment dans cette émission Les Bruits du Monde. Ce que je vous propose, Lord Lorenzo, si ça vous va bien, moins que vous ayez quelque chose à rajouter pour votre défense, qu'on écoute la deuxième partie de cet échange avec Khaled Al-Jarahmani, qui dure encore une dizaine de minutes. Et voilà, si ça vous va bien.
Ça me va très bien.
Et ben on continue alors.
Et alors avec Serge Tessoghi plus particulièrement, comment vous travaillez ensemble? On parlait tout à l'heure de transmission orale ou écrite de la musique. Est-ce que vous écrivez chacun vos partitions et que vous les confrontez, vous les jouez? Enfin voilà, comment vous travaillez avec Serge Tessoghi?
Heureusement que je suis venu de Moyenne qui utilise pas mal l'oreille, quoi. On transmet la musique oralement, et Serge aussi. Donc dès le début, on a pas eu besoin de parler. À l'époque, on a parlé anglais tous les deux. Mm-hmm. J'ai pas parlé français, et on a parlé l'anglais à la manière Arafat, c'est-à-dire que c'était l'anglais qui nous comprend qu'est-ce qu'on dit exactement. Oui. Les autres, ils comprennent pas vraiment notre anglais, c'était un peu difficile. Mais avec cet pauvre anglais, on a réussi à faire à contacter tous les deux, parler tous les deux et composer notre musique. Et ça se passe directement à la jouer, c'est-à-dire il n'y a pas de partie vraiment écrite à l'avance. Peut-être un petit thème ou un petit rythme qui se passe dans la tête, mais après le vrai composition se passe au dos directement. On joue, parfois on enregistre, on écoute, après on dit d'accord, on va développer cette partie là, on va enlever ça, on va changer ici les rôles. C'est mieux peut-être le oud qui prend le solo, pas la guitare. Ici, c'est mieux peut-être la guitare de prendre le solo. À cette manière-là, on fait le c'est-à-dire on construit la musique tous les deux vraiment.
Et du coup, sur les différentes collaborations que vous avez fait avec Serge Tessoghi, on rappelle, il y a eu 3 albums à ce jour. Ces albums, sur les musiques qu'on écoute et qu'on retrouve sur ces différents albums, est-ce que ce sont des musiques du répertoire entre guillemets traditionnel de la musique arabo-musulmane, ou ce sont également des compositions que vous avez construites à deux avec Serge?
C'est tout à fait original ce qu'on fait. J'ai jamais utilisé des éléments qui viennent de la musique traditionnelle. Et lui aussi, jamais utilisé des formats de rock. On était toujours dans la création. Et ça, c'est très important parce qu'on n'a pas perdu chacun, il n'a pas perdu son identité, mais on n'était pas dans la musique traditionnelle ou dans le rock. On était vraiment ailleurs. C'est à cause de ça qu'on a appelé interzone, c'est-à-dire c'est une zone qui peut avoir les deux, quoi, qui peut avoir tout le monde dedans. C'était vraiment un genre de dialogue, mais dialogue commence à écouter ce que disent les autres avant qu'ils commencent à faire qu'est-ce qu'ils vont faire. Ce genre de dialogue, elle a fait intéressante finalement.
C'est cet ailleurs et ce dialogue qui se noue entre vous, entre deux humains qui se rencontrent avec chacun un instrument de musique. C'est ça qui était un peu l'objectif en fait de votre collaboration, emmener le spectateur, les auditeurs de votre musique vers un ailleurs qui n'est pas physique, mais qui est celui de l'esprit et de la culture.
Tout à fait ça. Tout à fait ça. C'est-à-dire l'expérience, c'était dès le début, c'était Serge qui m'a proposé de faire cette expérience. Moi, je suis venu à l'époque, j'étais un prof au conservatoire de Damas. C'est-à-dire, j'étais entouré par des musiciens classiques ou occidentaux ou orientaux. Et quand j'ai entendu cette proposition, j'ai dit, c'est vraiment courageux à faire ça. On va essayer, ou on réussit à faire quelque chose, il sera magnifique, ou on fait rien, quoi, ou on n'arrive pas. Mais le plus important, d'essayer quand même de faire ça, parce que je crois c'est pas facile à faire marier deux sons, un électrique et l'autre vraiment acoustique, dans cultures vraiment différentes. C'est pas facile à se rencontrer quelqu'un qui lit à droite à gauche et l'autre lit à gauche à droite. Vous voyez, c'est vraiment profonde la différence. Mais quand même, on a réussi à faire ce genre de dialogue et le résultat, elle a fait un son vraiment particulier et elle nous a amené ailleurs, comme je dis.
Et on peut le dire, ce résultat, ces résultats de collaboration sont vraiment magnifiques. À titre personnel, je les aime vraiment beaucoup, vos trois albums. J'ai aussi beaucoup aimé votre album Attard, votre album solo, même si je crois qu'il y a d'autres musiciens quand même sur cet album-là, sorti en 2013, si je dis pas de bêtises.
Le solo, c'est vraiment le solo. Il y a que moi qui joue dedans.
Voilà, vous êtes, oui. Vous jouez du oud et vous chantez un petit peu.
Oui, exactement.
On prendra le temps d'écouter dans cette émission notamment le morceau Farah, qui veut dire joie, si je ne dis pas de bêtises, que j'aime
oui, exactement, Farah,
tout particulièrement.
Exactement, c'est-à-dire joie, exactement.
Une dernière question avant de nous quitter. Là, on dépasse un petit peu le cadre de la musique, mais quel est votre regard d'humain, de citoyen, sur la Syrie d'aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment, cette guerre, ces guerres, ces mouvements de population, cette trêve là qui vient d'être signée il y a quelques jours. Enfin voilà, quel regard un petit peu vous avez-vous en tant que Syrien vivant en France?
En fait, qu'est-ce que se passe en Syrie? D'abord, c'est très triste. Et moi, comme un Syrien, je peux dire que qu'est-ce que se passe en Syrie depuis 4 ans, c'était dès le début un grand, vraiment mouvement populaire contre une dictature. Après, il y a pas mal des forces qui sont intervenues, il y a les islamistes qui sont arrivés avec leur projet qui n'était pas de debout, qui n'existait pas de debout. De debout, il y a des gens qui sont sortis dans l'Europe pour demander la liberté, c'est tout. Et petit à petit, on a se trouvé devant une guerre civile terrible. Même pas une guerre civile, à mon avis. Qu'est-ce que se passe en Syrie? C'est une guerre mondiale, quoi. C'est des forces. Chaque parti, elle a son agenda. Après, le peuple syrien, elle paye. Elle paye pour tout le monde, quoi. Vous voyez, les Turcs, ils ont leur agenda. Les Iraniens, ils ont leur agenda. Les Russes, ils ont leur agenda. Les Saoudiens Arabes, ils ont leur agenda. Et finalement, ils se combattent chez nous, et nous on paye pour ça. Malheureusement, c'était comme ça, et je ne sais pas si elle va arrêter pendant des années. Ça, à mon avis, elle va rester très longtemps. J'étais un peu optimiste pour l'accord pour arrêter le combat pendant 2 jours, mais pendant 2 jours, par le Facebook et par les amis en Syrie, j'ai trouvé qu'il existe encore des bombardements, il existe encore des... Malheureusement, je ne sais pas s'il y a vraiment un volontaire dans ce monde d'arrêter cette guerre, d'arrêter cette folie. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous voyez ce que se passe avec le réfugié syrien partout. Ils sont coincés maintenant sur les frontières. C'est pas vraiment. C'est vraiment difficile. Si on imagine, il y a minimum 3 millions de réfugiés syriens autour de Syrie, en Jordanie, au Liban, en Turquie. Et après, il y a à l'intérieur de Syrie presque 3 millions de réfugiés aussi. C'est-à-dire on a 6 millions de réfugiés, sans compter les réfugiés qui sont arrivés en Europe, par exemple. Donc c'est vraiment une catastrophe vraiment, vraiment grande. Je crois que le monde n'est pas vraiment sérieux à faire arrêter cette catastrophe, parce que cette partie, comme je dis tout à l'heure, elle a son agenda. Il faut faire son agenda d'abord, après elle va penser de peuple syrien ou de humain qui mort tout le temps.
Oui, ces interventions venues de l'extérieur, en fait, ne tiennent pas du tout compte de la population qui souffre sur place et qui est quelque part prise en otage par tous ces intérêts qui dépassent l'intérêt de la nation et du territoire syrien. Est-ce que vous avez encore des amis et de la famille qui vit en Syrie, et qu'est-ce qu'ils vous disent?
Moi, j'ai mes parents encore. L'été avant dernière, j'ai réussi à faire venir ma mère pour nous visiter en France. J'ai dit, écoutez, si tu peux venir, tu peux rester, hein, tu peux demander l'asile politique et rester ici en France. Elle m'a dit non, je préfère rentrer, mourir chez moi. Donc il y a des gens encore qu'elle reste sur place et dit, on est né là, on meurt là. Donc les gens là-bas, ils vivent dans un autre temps. C'est pas comme nous. Ils ont bien adapté à la guerre, ils ont bien adapté à cette situation vraiment spéciale. Et les gens là-bas, c'est eux qui le disent, peut-être elle va durer plus longtemps, parce qu'on ne trouve pas une lumière à la fin de cette nuit, quoi.
Très bien. On comprend par ces mots que malgré les situations dramatiques comme la guerre, la vie reprend ou garde ses droits et les gens continuent à vivre le plus dignement possible sur place. Merci beaucoup, Khaled Al-Jahramani, d'avoir accepté de répondre à cette interview téléphonique.
Merci à vous.
Merci.
Je parle pas parfaitement le français. Moi, j'ai appris oralement aussi.
Vous parlez un français quasi parfait et je serais bien incapable de décrocher un seul mot en syrien. Donc, vous n'avez pas à vous excuser, bien évidemment. Nous étions très contents de vous entendre parler votre français que vous maîtrisez relativement bien, même très bien, je trouve. Donc, n'avez pas à vous excuser pour cela. Merci beaucoup, Khaled Al-Jahramani. Dans cette émission, nous allons écouter quelques morceaux de votre duo avec Interzone, avec Serge Tesseguet, on en a parlé. Et puis on écoutera aussi un ou deux extraits de votre album Attar. Merci beaucoup, Khaled Al-Jahramani.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Merci.
Les bruits du monde, par principe actif. Thank you.
un morceau de l'album solo de Khaled Al-Jahramani. Le morceau s'appelle Farah, ce qui veut dire joie. Et l'album, lui, s'appelle Attar, sorti en 2013, qu'on vous invite à aller écouter. En tout cas, nous remercions Khaled Al-Jahramani d'avoir évidemment répondu à nos questions, même si ça a déjà été dit au cours de cet échange. Plusieurs choses, nous sommes pris par le temps, je voulais vous faire écouter des extraits de films, je voulais vous faire quelques lectures, je suis un peu perdu, avouons-le. Du coup... Je vais me permettre de vous faire écouter un extrait en tapis pour vous lire un texte. Ce qu'on va écouter là, c'est un morceau de la flûtiste franco-syrienne qui s'appelle Naysam Jalal. Elle est accompagnée oud par Azem Shahin. Le morceau s'appelle Nasma. Il dure un bon moment, donc on va l'écouter en fond. Pendant ce temps-là, je vais vous lire une tribune que Naysam Jalal a écrite. Qu'on peut retrouver sur son site internet. La tribune s'appelle Binationalité. T'es binational, toi ? Oui, bien sûr. Eh ben alors, tu vas pouvoir répondre aux questions que je me pose. Pourquoi vous ne choisissez pas une nationalité ? Pourquoi on devrait choisir ? On en a deux, les deux font partie de nous. Pourquoi il faudrait faire un choix ? Et pourquoi pas ? Voilà le genre d'interrogatoire que le projet de loi sur la déchéance de nationalité nous amène à subir, nous qui avons une double nationalité et une double culture. D'abord, pour répondre à la question, puisque je suis fille de Syrien, je suis potentiellement syrienne. C'est-à-dire que j'ai mécaniquement la nationalité syrienne. Pour ne pas l'avoir, il aurait fallu que mes parents cachent mon existence au service d'état civil de leur pays de naissance. Quand bien même je n'aurais jamais réclamé le passeport syrien, je serais syrienne quand même et donc potentiellement destituable de mon identité française. Ensuite, si j'ai fait une demande de passeport syrien il y a plusieurs années, avant que la situation en Syrie devienne ce qu'elle est du fait de l'échec de la révolution, ce n'est pas seulement pour ne pas avoir demandé de visa pour aller voir mes proches et mes amis en Syrie. C'est aussi parce que nous, les binationaux nés en France, nous avons besoin de reconnaissance. Reconnaissance dans le sens de respect, et non pas simple constat de notre double identité. Et c'est ce point-là auquel je voudrais arriver. La France, parce qu'elle réclame un choix, et donc la négation d'une partie de soi crée du rejet et de l'exclusion. Qu'on ne vienne pas me dire que la France ne me demande pas ce choix, parce qu'elle ne le faisait pas officiellement. Le fait qu'aujourd'hui la déchéance de nationalité paraisse tellement évidente, voire légitime, à une grande majorité de Français prouve bien qu'il y a une attitude française collective qui considère qu'on est seulement français ou qu'on ne l'est pas vraiment. Soit tu aimes la France, et alors tu renies toute autre identité, soit tu n'es pas vraiment française. Il est exactement là le drame, pour tous les binationaux nés en France. On leur refuse leur pleine identité française parce qu'elle n'est pas exclusive. Aujourd'hui, le projet d'inscrire dans la Constitution une distinction entre vrais Français exclusivement et faux Français binationaux a mis en lumière cette exigence cachée de la France envers toute une partie de son peuple. Renier une partie de soi. Parce que c'est cela dont on parle quand on parle d'identité. On parle de l'être. Mon identité, c'est ce que je suis. C'est aussi pour ça que ce projet de loi est odieux. Parce qu'il a permis la banalisation de se retrouver pour un binational dans la situation de devoir rendre des comptes à tout à chacun sur son identité, sur son être. Elle est là aussi la blessure. Non seulement ce choix réclamé inconsciemment et de façon invisible est devenu un projet de loi à inscrire dans la Constitution, mais il nous expose chaque jour à devoir rendre des comptes sur ce que nous sommes, pour rien, juste parce que cette loi a rendu ses interrogations légitimes. Sachez donc, d'une part, qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de renier une partie de soi sans créer chez lui à la fois un trouble psychologique et donc de la rancœur, et sachez d'autre part que vos interrogatoires nous blessent profondément, que c'est déjà assez dur de se construire lorsqu'on a une double identité, pour ne pas avoir en plus à rendre des comptes sur notre être. Binationalité, une tribune donc de Naysam Jalal. Ce que je vous propose, j'avais prévu également aussi de vous faire écouter des extraits de films, je vais pas avoir le temps d'en faire beaucoup. Je vous propose quand même d'écouter ceci.
مشى السوريون أغرب ماراثون في التاريخ 42 عاما يرفعون صور الفرد بدأوا مشيهم المعاكس
أنت أسامة محمد السينمائي
أنا لم أعد
أين أنت الآن؟
أنا هنا في باريس
كانت كاميرتك هنا، ماذا تحب أن تقمص من وضع حمص بالضبط؟
تسألني وتختفي، أبحث عنها في الصورة.
لن أهرب. سوريا أم، والأم بتلم.
نحن نموت.
أنا خائفة.
هلا هون بعد عند الناس بتنزلت.
نحن نموت بكل ما في الحياة.
اسمي الكردي أحبه، سيماف ماء الفضة.
C'est un extrait du film L'eau argentée que m'avait conseillé Raled Al-Jaramani, avec qui nous étions tout à l'heure au téléphone. Un film sorti en 2014, réalisé par Osama Mohamed et William Simav Bedirkhan, pardon pour la prononciation. Je vous fais le petit pitch quand même qui va bien. En Syrie, les youtubeurs filment et meurent tous les jours, tandis que d'autres tuent et filment. À Paris, je ne peux filmer que le ciel et monter ces images YouTube, guidées par cet amour indéfectible de la Syrie. De cette tension entre ma distance, mon pays et la révolution est née une rencontre. Une jeune cinéaste kurde de Homs m'a chatté. Si ta caméra était ici à Homs, que filmerais-tu ? Le film est l'histoire de ce partage. On vous invite évidemment à aller le découvrir. Voilà, je voulais vous parler d'un autre film concernant davantage la situation des réfugiés, migrants, je ne sais plus comment on doit dire les choses, en tout cas ces pauvres personnes qui se retrouvent sur les routes. C'est ce dont traite le film Border, un film documentaire réalisé, produit, je vais retrouver mes petites notes, ne vous en faites pas d'inquiétude, par Taranis News, qui est donc un groupe de journalistes qui œuvre sur Internet. Le film s'appelle Border Nation Deportation. Il dure une cinquantaine de minutes et on y suit le parcours de migrants, de personnes en tout cas, de la Serbie, en passant par la Hongrie jusqu'en Allemagne, en passant par l'Autriche également. Pas de voix off, quasiment pas d'intervention des journalistes. Voilà, c'est un reportage vidéo qui m'a beaucoup touché. Je redis le nom, Borders Nation Deportation, produit par Tarani News. C'est comme ça que se termine notre émission, avec un petit peu de retard. Qu'est-ce que je voulais vous dire, Lord Lorenzo, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter?
Eh ben, dans 15 jours, on se retrouve pour la réunion, cette fois-ci, après ce lien qu'on a fait entre l'histoire d'un peuple à travers sa musique, assez différente des autres éditions d'ailleurs.
Prochaine émission donc le 16 mars, vous l'avez dit, autour de l'île de la Réunion, toujours à 22h, toujours sur le 102.4 ou le www.principactif.net. Merci à vous en tout cas, Lord Lorenzo, de m'avoir accompagné et supporté mes erreurs.
Merci Lord Pignon.
On remercie également Raled Al-Jaramani d'avoir pris le temps de répondre encore une fois à nos questions. Et enfin merci à vous, auditrices et auditeurs, de votre écoute. On rappelle que ce programme est à retrouver en balado-diffusion, comme disent les Québécois, sur notre site internet principactif.net. Et donc on se retrouve le 16 mars prochain à partir de 22h pour un voyage consacré cette fois-ci à la Réunion. Merci à vous.
Au plaisir.
Les bruits du monde.